Chapitre 21. Quand Freddy mit le pied sur les galets de la plage de Lens, à bout de force, Lucienne fonça vers lui avant même qu'il ne puisse enlacer sa femme.
« Mon Tibouk, il est où, Tibouk ?»
répétait inlassablement sa voisine en saisissant les épaules courbées de Freddy pour le secouer. Le jeune pêcheur ne put que pencher la tête en laissant ses larmes couler de nouveau.
« Je les ai perdus de vue, je sais pas. » Je suis désolée, Lucienne. Mais il va être correct, hein?
Questionna la femme sans saisir le ton défaitiste qui accompagnait les paroles de Freddy. Émile s'approcha d'eux pour permettre à Madeleine de prendre son mari contre elle. Le costaud souleva la main de Lucienne pour la consoler et murmura, les lèvres craquelées par le froid.
On va y retourner demain, Madame Marcellet. Les vents sont trop forts en ce moment et les vagues hautes comme des montagnes. C'est un coup de chance d'avoir retrouvé Tom et Freddy. On s'en revenait et il faut croire que la couleur orange est bien visible, même la nuit.
La pauvre Lucienne éclata alors en sanglots, entourée par les autres villageoises qui comprenaient trop bien qu'elle risquait toutes de se retrouver à sa place un jour ou l'autre. La mère nourricière reprenait trop souvent ses dûs, se dirent les hommes et les femmes de Lens à la joie. Simone tremblait comme une feuille. Et elle se dirigea instinctivement vers sa jumelle pour obtenir du réconfort, les yeux sur la barque qui ramenait son mari.
« Ils sont là, ma sœur. Ils sont enfin revenus. Tom va être correct. »
Simone leva son regard chargé d'effroi vers sa sœur et demanda
« Tu me le promets, Maddie? »
Celle-ci hocha simplement la tête en priant pour que son beau-frère, blanc comme la mort, passe au travers de cette nouvelle épreuve. Madeleine se tenait entre sa sœur et Freddy en espérant ne pas se tromper. Simone se détourna pour atteindre la chaloupe où reposait son époux. Elle eut juste le temps de glisser sa main sur la joue glacée de Tom, qu'il fut soulevé par deux villageois. Jacqueline s'avança vers ses sœurs, désireux de s'enquérir de la situation, à présent que la famille Taillefer était remontée au village.
« Comment va ton mari, Simone? Il n'est pas décédé, j'espère? »
Cette dernière laissa échapper une plainte sans répondre. Plissant le visage avec mépris, Freddy releva son corps tout en serrant la grosse couverture à carreaux sur ses épaules.
« Non? Pourquoi tu dis des affaires de même, Jacqueline? On se calme, Freddy. Je suis en droit de m'informer. »
Madeleine posa une main ferme sur le bras de son conjoint pour le faire taire. Elle pointa du menton sa sœur qui tenait à peine sur ses jambes. Avant la noyade d'Éloi, Simone ne se serait jamais effondrée ainsi. Sa jumelle était bien consciente qu'elle était responsable de ce changement dans le caractère de Simone. Cette dernière ressentait à présent une fragilité et une angoisse liées à sa famille qui la paralysait.
« Viens, Simone. On monte au village. »
Madeleine saisit les doigts glacés de sa sœur et elles se mirent en marche derrière les villageois qui portaient Tom. Jésabelle Contant, l'infirmière, suivait en surveillant le blessé à la lueur de la lampe. Le grand blond avait passé plusieurs minutes dans l'eau glacée, et malgré les soins qui lui avaient été prodigués à bord du bateau de la Robin, il demeurait inconscient. Quand le cortège passa au coin du chemin principal, Gaston Taillefer leur souhaita bon courage, et Rosalie ne put s'empêcher de jeter un regard vers Simone. La jeune femme savait bien que sa situation ambiguë avec Jacqueline Gérard passait au deuxième plan dans la tête de l'épouse de Tom, mais elle espérait que cette dernière ne l'oublie pas.
« Bonne chance, Simone! »
lança-t-elle, en souhaitant que ces quelques paroles la gardent bien présentes à l'esprit de la jumelle. Craignant que le curé ne suive de près ses deux sœurs, Rosalie s'empressa de retourner dans l'appartement de la famille pour s'agenouiller au pied de son lit afin de prier un peu.
« Seigneur, je te prie de prendre soin de Tom la Violette et aussi de Freddy, même s'il avait l'air moins éprouvé. Je te demande aussi de t'assurer que Simone puisse bientôt m'aider à résoudre mon problème. Amen. »
Dès leur arrivée dans la maison réchauffée par le gros poêle bien entretenu par Gustave toute la journée, l'infirmière s'empressa de dévêtir Tom. Horace se tenait aux côtés de son fils et il frottait ses larges mains l'une contre l'autre sans arrêt. Le sexagénaire respirait très fort et, craignant qu'il ne subisse un nouveau malaise, Jésabelle Contant l'obligea à s'asseoir dans la berçante.
« Moi, je veux vous aider !»
rugit Horace en restant sur place. « Si vous voulez m'aider, Monsieur Laviolette, assurez-vous que je m'inquiète pas pour vous. Je veux concentrer toute mon énergie sur votre fils. Faites bouillir de l'eau, beaucoup d'eau pour remplir la bassine. » ordonna la femme en tournant la tête vers les jumelles. Si Horace était étonné de constater la présence de Madeleine dans la maison, il n'en laissa rien paraître. Pour l'instant, l'urgence était de permettre à son garçon de reprendre connaissance. L'infirmière frictionna Tom avec une épaisse couche de gras de morue, puis elle enveloppa le pêcheur dans une couverture de laine. Pour une rare fois, Freddy avait compris que la jumelle de sa femme passe avant lui. Malgré la frayeur qu'il avait eue, il acceptait que Madeleine veuille rester auprès de Simone. « Je vais passer chez nous pour ajouter une couche de vêtements. Les gars qui nous ont sauvés ont été bien fins, ils avaient du linge sec pour nous autres, mais on dirait que j'arrive pas à me réchauffer. « Veux-tu que j'aille avec toi ?» avait murmuré Madeleine. Son époux avait hésité quelques secondes. Il avait bien envie d'avoir sa femme près de lui, mais en constatant la panique qui enlaidissait presque les traits de sa belle-sœur, il avait secoué la tête. « Non, je vais embrasser notre gars et rassurer Palmyre. Après, je reviendrai vous rejoindre. »« Merci. » Madeleine constata rapidement que sa sœur avait perdu tous ses repères face à la détresse d'un des siens. Quand l'infirmière invita Simone à sortir les vêtements et les couvertures les plus chauds qu'ils avaient, celle-ci la regarda, l'air effaré. C'est Madeleine qui s'en chargea, connaissant très bien le système de rangement de sa jumelle. Elle apporta les objets demandés à Jézabel, puis elle força sa sœur à s'asseoir dans le petit fauteuil, près du sofa où était étendu Tom. Alourdie par son ventre, Madeleine ne se préoccupa pas de la douleur qu'elle ressentait au niveau de son dos. Toute son énergie était dirigée vers sa jumelle. « Tout ira bien, ma chérie », promit-elle en passant une main douce dans les cheveux mouillés de Simone. Cette dernière hocha la tête en lui jetant un tel regard d'espoir que Madeleine sentit l'angoisse l'envahir. S'il fallait que Tom ne passe pas à travers cette épreuve, sa sœur ne s'en remettrait jamais. Elle allait tenter de la rassurer de nouveau, quand des pas se firent entendre dans le couloir. Philomène, réveillée par la commotion à l'avant de la maison, s'avança dans la cuisine, le visage ensommeillé. Elle plissa les yeux pour bien saisir la scène et en voyant la face blême de son père allongée sur le divan, la fillette se précipita vers lui. « Papa, papa, meurs pas !» Gustave, qui dormait avec les deux fillettes au moment de l'arrivée des adultes, suivait son ami quelques pas derrière. Il entoura le cou de Philomène de son petit bras maigre et retint ses larmes. Il aimait Tom Laviolette comme un père, peut-être plus que le sien, même si dans sa tête d'enfant, il ne l'admettait pas. Déglutissant, il chuchota en s'agenouillant. « Mon nom, Tom, tu peux pas mourir et me laisser tout seul. » Ce n'est que le lendemain matin, vers 5 heures, que les secours s'organisèrent de nouveau pour récupérer la barge de Bourbeau-Marcelet. Les secouristes avaient peu d'espoir de retrouver les deux hommes vivants après une nuit passée sur une mer déchaînée. Mais Lucienne, qui n'avait pas dormi, rejoignit les secouristes sur la grave en les suppliant de ne pas abandonner. « Mon Thibouc, il en a sauvé des pêcheurs. C'est à votre tour de le faire. Laissez-le pas tomber. » La gorge nouée par l'épreuve qui les attendait, Émile accompagnait des pêcheurs d'expérience dans l'expédition. L'équipe de sauvetage était composée de jeunes hommes sans famille pour des raisons bien évidentes. Les vents soufflaient moins fort, mais le temps sentait encore l'orage. Les filles de Lucienne, qui habitaient près de Bonaventure, devaient arriver dans la journée. Le couple avait aussi 3 garçons, dont 2 demeuraient dans un village près de Rivière-Madeleine. Ils étaient difficiles à rejoindre, Gaston avait promis de tout tenter pour y arriver. « Je vais essayer de téléphoner au docteur du village. » L'attente qui commença fut terrible pour la famille et les amis des 2 pêcheurs perdus en mer. Quand le bateau de la Robin disparut derrière l'île Bonaventure, Lucienne remonta chez elle avec quelques voisines bien intentionnées. Peu après 7 heures, Jacqueline vint cogner à la porte du couple Marcelet. Désireux de se faire pardonner sa grave offense, le curé tentait par tous les moyens de se rapprocher de son Dieu. Il avait tant prié depuis son faux pas avec Rosalie que ses genoux étaient marqués et douloureux. Mais pour l'homme en soutane, la seule manière d'oublier l'émoi qu'il ressentait en pensant à la jeune marchande était de se confier au Seigneur afin qu'il le guide. Dès son entrée dans la maison de Lucienne et Bourbeau, le curé prit les choses en main. « Installons-nous ensemble », ordonna-t-il aux quelques femmes présentes. « Joignons nos mains et implorons notre Seigneur afin que les deux hommes soient retrouvés vivants. Mais gardons en tête qu'il a un plan pour nous tous et que nous devons le respecter. » Un sanglot dans la gorge, la pauvre femme éplorée se balançait de l'avant à l'arrière, sans cesser de murmurer des paroles divines. Madeleine pénétra à son tour dans la maison, un sentiment désagréable au fond du cœur. D'un côté, elle était désolée pour Lucienne, cette bonne amie. De l'autre, elle remerciait le ciel que Tom et Freddy soient revenus sains et saufs. La première chose qu'elle avait faite à son réveil, vers 6 heures, avait été de se diriger chez sa jumelle pour s'assurer que son beau-frère allait mieux. Lorsque Philomène et Gustave s'étaient agenouillés près de Tom la veille, en le suppliant de ne pas mourir, celui-ci avait enfin ouvert les yeux. « Philo », avait soupiré l'homme, en jetant un regard éperdu autour de lui. La vue de tous ces visages angoissés avait réveillé ses souvenirs, et il s'était mis à respirer rapidement en serrant de manière spasmodique la main de sa femme penchée sur lui. « La barge, Freddy, il va bien », avait soupiré Simone, en posant sa main sur le front du père de ses enfants. Ensuite, Tom avait regardé les jumelles en tentant de comprendre la situation. Il avait juste soufflé en pointant Madeleine. « Pourquoi ?» Simone avait mordu sa lèvre et jeté un coup d'œil embarrassé vers sa sœur, qui s'était empressée d'enfiler son manteau. Sans répondre, Madeleine avait traversé le couloir vers la cuisine d'été pour retourner chez elle. « Attends, Maddy !» avait lancé Simone en la suivant. La main sur la porte, soulagée de voir que son beau-frère avait repris connaissance, Madeleine s'était retournée avec un sourire. Avant que sa sœur ne puisse parler, elle l'avait embrassée sur la joue et avait murmuré « C'est correct, Simone. Je suis heureuse. Va prendre soin de ton mari. » Puis, elle était sortie de la Maison Blanche avec l'impression de voler, malgré l'épuisement et la fatigue de cette longue journée. La jeune femme avait dormi à peine quelques heures avant de se relever. Rassurée sur le sort de Tom par Horace, qui réparait un bout de clôture, Madeleine s'était ensuite déplacée vers la maison de Lucienne. En constatant que les quelques femmes présentes étaient en mode prière avec son frère, elle alla se placer derrière Lucienne sans dire un mot. Elle se contenta de poser ses mains sur les épaules tendues de la femme rousse. « Ton Tibouk, c'est le meilleur pêcheur de Lance, » affirma-t-elle. « Il va te revenir. » Lucienne ne fit que hocher vigoureusement sa tête échevelée par une si courte nuit. Cependant, Jacqueline s'empressa de blâmer sa cadette en s'adressant à elle sur un ton acéré. « Nous étions en prière, Madeleine. Je suis désolée. » La femme vint pour s'asseoir sur la dernière chaise disponible autour de la table ronde, mais son frère leva une main pour l'arrêter. « Laisse faire. Puisque tu es debout, pourrais-tu me faire une tasse de thé? « Je me suis dépêchée de venir apporter mon soutien à Madame Marcellet et je n'ai pas pris le temps de déjeuner. »«
Bien sûr, » répondit aussitôt Madeleine, satisfaite que son aînée laisse tomber ses réprimandes.
Les autres femmes quittèrent la maison pour retourner auprès de leur mari. Lucienne, ragaillardie par les prières, retrouva un peu de sa hardiesse et se leva pour sortir une grosse miche de pain sous le regard gourmand de Jacqueline. Déposant une bouteille de vitre pleine de sirop d'érable et un morceau de beurre au milieu de la table, la femme précisa « Je vous en prie, mangez, monsieur le curé. Vous êtes trop bon d'être auprès de moi ce matin. Je vous en remercierai jamais assez. C'est mon devoir, ma chère dame, » répondit aussitôt Jacqueline en tapotant la main potelée de Lucienne. Il eut la décence de baisser le regard, lui qui était le seul avec Rosalie à savoir que sa bonté n'était que factice. Madeleine déposa une tasse de thé bien chaud devant lui, et il pencha sa tête blonde pour saluer le geste. Reprenant place sur une chaise, Lucienne s'informa en soupirant, avec une note d'envie dans le ton. « Ton mari va bien, Madeleine? »
« Oui, il dormait encore quand je suis sortie. »
« Et Tom, as-tu eu de ses nouvelles? »
« Je suis passée chez Simone avant de venir ici. Horace me dit qu'il se reposait. » Il a repris connaissance hier soir, assez tard.
Ah bon? Ta sœur t'a enfin pardonné? Questionna Jacqueline de son ton supérieur qui faisait damner ses beaux-frères.
Je pense, oui.
Malgré toute la tristesse du jour et la détresse qui se lisait sur les traits de Lucienne, sa jeune voisine ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine jubilation. Simone l'avait serrée contre elle. Simone lui avait parlé comme avant. Simone semblait lui avoir pardonné. Le trio resta en silence quelques instants. Après avoir grignoté un morceau de pain du bout des lèvres, Lucienne se leva en prenant appui sur la table.
« On va aller en bas. »«
T'es certaine, Lucienne? »«
Ça peut prendre des heures avant qu'ils reviennent, et il fait très froid, justement. »« Je vois pas pourquoi je resterais au chaud pendant que mon homme gèle sur l'eau. »
Madeleine et Jacqueline sortirent l'un derrière l'autre de la maison en scrutant la mer. Le temps gris ne faisait que densifier l'eau, qui semblait plus sombre que jamais. Frissonnant en éprouvant un mauvais pressentiment, la femme enceinte se tourna vers son aînée et chuchota « Tu crois qu'ils vont les trouver? » Jacqueline plongea son regard bleu dans celui de sa sœur. Le drame qui se vivait au village de Lens-à-la-Joie depuis 2 jours avait occulté le sien. Il haussa les sourcils avec une moue dubitative. Se penchant pour éviter de se faire entendre, même si Lucienne marchait devant, il répondit « Honnêtement, j'ai peu d'espoir. Mais les voies du Seigneur doivent être respectées. S'il a choisi ce destin pour Bourbeau-Marcellet, eh bien, ainsi soit-il. Nous, pauvres mortels, n'y pouvons rien. » Madeleine ne répliqua rien, mais elle grimaça devant ces paroles défaitistes. Simone et elle s'étaient toujours moquées de Jacqueline lorsqu'ils se lançaient dans de grandes envolées semblables. Mais cette fois-ci, les prédictions étaient sinistres et concernaient un homme qu'elle appréciait beaucoup. Depuis la mort de ses parents et encore plus après celle d'Éloi, Lucienne et Bourbeau avaient été présents pour son mari et elle. Elle posa les mains sur son ventre bien rond et clama « En tout cas moi, je veux croire qu'ils y trouveront. » Assise sur le sofa dans son salon, Simone tricotait en attendant que son époux se réveille. Elle l'avait surveillé une partie de la nuit ainsi que l'infirmière le lui avait ordonné. Les vents avaient soufflé leur rage contre les murs de la maison et la toiture s'était lamentée à chaque bourrasque. Si vous sentez que sa respiration s'interrompt, vous vous empressez de le secouer, Madame la Violette. Votre époux a supporté un choc thermique important. Il faut s'assurer que son système ne subira pas de défaillance dans les prochaines heures. Inquiète, Simone avait donc passé la nuit assise dans leur lit, les yeux à moitié fermés. Elle avait dû se fâcher pour que Gustave et Philomène acceptent de retourner dans leur chambre une fois Jésabelle Contant repartie vers 11 heures, la veille au soir. « Moi aussi, je veux le surveiller », avait ronchonné le garçonnet, le visage buté. « C'est mon père, j'ai le droit de rester », avait ajouté Philomène. Simone, à bout d'arguments, avait fini par leur promettre qu'elle irait les chercher si elle sentait qu'elle ne pouvait demeurer éveillée. Son regard avait suivi le corps de Gustave en réalisant que Géraldine ne s'était jamais présentée à la plage pendant la journée. Celle qui lui avait tant promis d'être là après la noyade d'Éloi semblait à présent complètement distante et désœuvrée. La semaine précédente, quand Simone avait mis les pieds dans la maison au bout du village pour lui proposer son aide, son amie avait asséné qu'elle pouvait s'occuper de Gustave le temps qu'elle voudrait. À part faire des niaiseries pour agacer ses frères, il est inutile. C'est pas comme s'il m'aidait. J'ai déjà assez de son père qui est bon à rien, ça fait que si tu me proposes de le garder chez vous une couple de semaines, je te dis pas non pantoute. Gênée dans la masure mal entretenue, Simone s'était empressée de prendre quelques vêtements pour le garçon, en précisant qu'elle l'enverrait à l'école avec Philomène, ce à quoi Géraldine avait répondu « Entre toi et moi, Simone, le plus vite il va arrêter d'y aller, le plus vite il va pouvoir travailler à la grave. Je pense que ça va être sa dernière année. Son frère et lui vont faire comme les petits gingras et aller aider au vigneau la saison prochaine. Je veux m'assurer qu'il soit pas fainéant comme Homer. » Embêtée par les changements qui s'opéraient chez Géraldine depuis que son époux traînait à l'auberge au lieu de passer ses journées en mer, Simone l'avait serrée contre elle pour l'encourager. « Ça va aller mieux bientôt, mon ami. »«
Ah ouais ?»
avait ironisé la grande blonde. « Et comment tu sais ça ? Parce que je me retrouve encore en famille, imagine-toi donc. Ça fait que je doute que ma vie s'améliore. »«
Enceinte encore ? Je comprends pas. »
Géraldine avait soulevé son bébé de presque 2 mois pour lui tapoter le dos et avait évité le regard soucieux de Simone.
« Ben oui, c'est arrivé, même si je nourris la petite. Je suis chanceuse comme ça, moi. »
avait poursuivi la femme sur un ton ironique. « Les sermons de ton frère qui répète sans cesse « Faites des enfants, empêcher la famille, c'est péché », ben ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. J'ai juste hâte que Commère sac son camp au chantier, à moins qu'il se trouve une raison pour pas y aller. S'il me fait ça, je sais pas comment on va survivre, je te le dis. Gaston est bien tanné de nous faire du crédit. Et c'est bien qu'on pourra pas le rembourser avant notre mort. On va laisser un bel héritage à nos petits. »
Devant la hargne de Géraldine, Simone avait quitté la demeure sans demander son reste, soulagée de savoir que Gustave pourrait rester avec eux quelque temps, mais inquiète pour les autres enfants de son amie. Quand le garçonnet était en leur compagnie, la femme tentait de trouver une faille dans son comportement qui lui ferait comprendre pourquoi sa mère l'avait tellement pris en grippe. Pourtant, ce qu'elle voyait en Gustave, c'était un enfant excité et énergique, certes, mais sans aucune malice. La veille, lorsque Philomène et lui s'étaient finalement éclipsés sous la promesse formelle d'être avisés si Tom allait plus mal, Horace avait mis ses mains sur les épaules tendues de sa bru et précisé « Je suis là, moi aussi, ma fille. Veux-tu que je le surveille? C'est mon gars, après tout. »
Simone avait eu un regard très doux pour rassurer son beau-père. Elle avait serré ses mains usées par le travail et murmuré « Je vous promets d'en prendre bien soin. Pas question que je laisse nous quitter. » Alors jusqu'à 3 heures, elle n'avait pas dormi. De temps en temps, Tom grognait et se mettait à gémir. Elle posait alors une main rassurante sur son front.
« Chut, chut, mon homme, t'es correct. »
Pas une fois, il n'avait ouvert les yeux. Et Simone l'avait recouvert quand ses mouvements avaient fait tomber la couverture. Il avait encore les extrémités froides malgré les gros bas de laine, et sa femme avait glissé ses mains dans des mitaines épaisses, en plus de lui mettre une tuque sur la tête. Ainsi, en mitouflé, Tom s'était enfoncé dans un sommeil agité, mais qu'elle avait espéré réparateur. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, la voix rauque de son époux la fit sursauter.
« Allô, Simone? »
« Oh, Tom! » Il avait tellement crié pendant son épreuve en mer que le pêcheur avait la gorge en feu. Le corps collé sur le poêle à bois, l'homme tenta un sourire courageux, mais ne réussit qu'à faire un étrange rictus. Simone laissa son tricot à côté d'elle et se leva pour aller étreindre son époux.
« Oh, Simone, j'ai eu tellement peur! »
murmura l'homme en posant sa tête sur l'épaule ronde couverte par la jaquette blanche. Pour la première fois depuis la mort de son fils, Tom éclata en sanglots, sans pouvoir s'arrêter. Prise au dépourvu, Simone le serra fortement contre elle et le dirigea vers le sofa en espérant que les enfants resteraient endormis encore quelques minutes. Pour être à l'heure à l'école, les deux plus vieux devaient quitter la maison aux environs de 7h15. Ils avaient donc un peu de temps devant eux, avant qu'ils ne se lèvent pour déjeuner. Enlacée contre Tom sur le divan, Simone écouta son mari lui raconter son calvaire. Quand il arriva au moment où il avait basculé dans la mer, son corps fut secoué de tremblements si puissants que la femme dut user de toute sa fermeté pour le rassurer.
« T'es correct, Tom. T'es ici, chez nous. Freddy. C'est Freddy qui m'a sauvé la vie. »
Le couple échangea un regard lourd de sous-entendu.
Quelle ironie!
Tom se mit à chuchoter sur les pensées qu'il avait traversées tout au long de cette longue journée sur la mer déchaînée.
J'ai tellement prié, Éloi, si tu savais. Quand je suis tombée à l'eau, j'ai pensé à l'horreur que notre gars avait dû ressentir. Mais sais-tu quoi, Simone? C'est ça qui m'a donné le courage de tenir bon. Je suis certain que mon petit gars accroché à son nuage a tout fait pour que je la grippe, cette bouée-là. J'avais plus de force, je pensais bien me laisser couler, mais je l'ai vu, mon Éloi, mon bonhomme qui me criait de pas lâcher. »
Simone allait répondre lorsqu'une voix peinée l'interrompit.
« Moi aussi, il voudrait être ton gars, mon oncle Tom. Lui, Éloi, il est plus ici, mais je suis là, moi. »
L'homme blond leva la tête vers le gamin qui se tenait près du mur à l'entrée du salon. Gustave avait une moue chagrine. Ses yeux bruns étaient remplis de larmes. Il avait écouté l'homme parler de son fils disparu et avait compris qu'il ne pourrait jamais le remplacer. Toutefois, ces paroles allèrent directement au cœur de Tom, qui lui fit signe d'approcher. Dans sa combinaison trop courte, l'enfant s'avança, un peu craintif. Peut-être que le grand maigre allait le disputer pour avoir mentionné son fils disparu. « T'as pas besoin d'essayer de remplacer Éloi, mon garçon. T'as juste à rester comme tu es. Puis je peux te dire que tu me rends bien heureux chaque fois que t'es chez nous. Pour vrai? » En plongeant son regard bleu dans celui naïf de Gustave, le pêcheur comprit que son deuil était enfin amorcé et qu'il disait la vérité lorsqu'il affirma « Absolument, mon Gustave. » Un sourire éclatant illumina le visage encore hâlé du garçon. L'enfant se glissa contre Tom, qui le serra maladroitement, peu habitué à de tels gestes d'affection. « Bon, » murmura Simone attendrie, « faut réveiller Philo, Gustave. C'est l'heure de déjeuner. »«
Oui, ma tante. »
Encore une fois, la femme se demanda à quel point son comportement pouvait changer en présence de ses parents, pour que Géraldine souhaite le voir quitter sa demeure. Une fois le gamin disparu dans le corridor, Simone inspira profondément, puis elle affirma, sans parler de son rapprochement avec sa jumelle, « Je le remercierai. »«
Hein? Pourquoi? »
souffla Tom, qui avait l'impression qu'une carriole et quelques chevaux lui étaient passés sur le corps tant il était épuisé. Simone le fixa directement dans les yeux et répéta, « Je parle de Freddy. Je remercierai Freddy de t'avoir sauvé. » L'homme ferma les yeux en appuyant sa tête contre le haut du sofa. Au moment où le sommeil le gagnait de nouveau, il souffla.
« Et Tibouk? Ils sont revenus, eux aussi? »
La femme plaça une courte pointe sur le corps maigre de son époux et se leva pour éviter de le regarder directement. Les hommes sont repartis les chercher. « Ils les trouveront jamais. » laissa tomber Tom en secouant la tête avec tristesse. C'est certain que la barge de Thibaut n'a pas résisté à une telle tempête. La mer était déchaînée, Simone.